Bonsoir Fabienne Synthèse.
Bonsoir Charline et les amis, à demain, soyez sages, pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert, soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez savoir de l'actualité de cette journée, du lundi 11 octobre, avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence par une garde à vue qui interroge.
La garde à vue de la maire socialiste de Canteleu, en Seine-Maritime, où nous vous en parlions la semaine dernière. Mélanie Boulanger, interrogée par la police dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Or, elle est sortie de garde à vue sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Procédure injustifiée, selon l'élu, qui s'estime irréprochable. On l'entend. Un plan sans précédent de rénovation des écoles marseillaises présenté aujourd'hui par le maire Benoît Payan. 174 écoles rénovées en 9 ans avec un budget de plus d'un milliard d'euros. À suivre également les maraîchers interdits d'emballage plastique à partir du 1er janvier prochain. Pas simple, on l'entendra. La généralisation du dépistage gratuit du sida. Un nouveau gouvernement pour la Tunisie, toujours inquiète. Et puis enfin la tour Triangle à Paris qui risque de ne jamais voir le jour. Une enquête pour favoritisme a été ouverte.
À 18h15, un jour dans le monde, mais comment peut-on encore aimer Facebook? Alors est-ce qu'on efface, delete comme le titre en couverture le magazine Time, peut-on encore réguler ce mastodonte qui non seulement tombe en panne, mais en panne de sympathie aussi, Facebook accusé par une ex-employée de cynisme, de dissimulation, Facebook accusé d'être toxique pour les ados, on en parle ensemble ce soir. Et puis 19h20, le téléphone sonne, comment vont les étudiants? La rentrée universitaire s'est faite progressivement depuis un mois, une rentrée 100% présentielle. C'était le souhait de la ministre. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Tout le monde n'a pas, par ailleurs, retrouvé le job qui fait vivre. Venez nous raconter, posez vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Elle avait fait la une de tous les médias en fin de semaine dernière.
Y compris sur France Inter, dans ce journal. Nous vous racontions en effet vendredi dernier l'interpellation par la police, puis le placement en garde à vue de Mélanie Boulanger, maire socialiste de Canteleu, ville de 15 000 habitants. Dans les environs de Rouen, l'élu apparaissait dans une enquête pour trafic de stupéfiants, un vaste coup de filet en Seine-Maritime. 19 personnes arrêtées, dont les gros bonnets du réseau de drogue. Sauf qu'en fin de garde à vue, ce week-end, Mélanie Boulanger ressortit libre, sans aucune charge retenue contre elle. Alors pourquoi une telle procédure de la part des enquêteurs? La maire s'en est émue aujourd'hui lors d'une conférence de presse à laquelle a assisté Mathilde Vinceneux.
La voix tremblotante, Mélanie Boulanger est revenue sur ses 36 heures passées en garde à vue. Les policiers ont fouillé son ordinateur, son téléphone, sa tablette. Elle a dû répondre aux questions sur ses éventuels liens avec des personnes impliquées dans ce trafic de drogue. Des personnes qui habitent sa commune de Canteleu, 15 000 habitants.
Je n'ai pas de lien, je n'ai aucun lien avec ces gens-là. Le régime de garde à vue n'était pas justifié. Je suis apparemment la première mère placée en garde à vue pour devoir s'expliquer parce que des trafiquants ont essayé d'entrer en contact avec elle pour tenter de l'impressionner, de l'intimider, de la dissuader de mener le combat.
Mélanie Boulanger affirme avoir été victime de menaces, parfois via des intermédiaires, quand elle prenait des mesures qui pouvaient gêner les trafics. Lorsqu'elle a fait installer des caméras, par exemple, elle raconte avoir déjà été suivie en voiture, attendue sur le parking de la mairie ou devant chez elle. Si elle n'a pas porté plainte contre ces trafiquants, c'est parce qu'elle avait peur des représailles.
Mathilde Vinceneux du service police-justice de France Inter.
Emmanuel Macron en avait fait l'un des chantiers prioritaires pour Marseille, mais sans le chiffrer.
Rénover les écoles de la cité phocéenne, pour certaines à la limite de l'insalubrité, des toits qui s'effondrent, des rats, des punaises dans les dortoirs, près de 200 écoles à l'abandon. On se souvient que le chef de l'État, pendant sa visite au début du mois de septembre, avait souhaité y investir les moyens de l'État, mais sans donner de chiffres. Frustration à l'époque des enseignants et des parents. Un mois après, c'est donc le maire de Marseille qui reprend le flambeau et lance aujourd'hui un plan de plus d'un milliard d'euros sur près d'une décennie, un partenariat avec l'État. C'est selon Benoît Payan le plus grand chantier que la ville de Marseille ait initié depuis les années 60. Les précisions sur place de Cyril Ardo.
C'est un plan colossal avec une trentaine d'écoles à construire et 140 établissements à rénover entièrement, avec une ambition, celle de gommer les inégalités. Benoît Payan, le maire de Marseille.
La carte des inégalités scolaires se confond avec la carte des inégalités sociales.
Le délabrement des écoles pèse davantage sur les plus fragiles, sur ceux qui connaissent le plus de difficultés sociales, sur ceux qui sont déjà victimes d'inégalités.
Benoît Payan promet des concertations à chaque étape des rénovations avec les familles, les enfants et le personnel éducatif. L'idée, c'est aussi de rendre les écoles plus vertes avec des matériaux propres, des panneaux solaires ou encore des puits thermiques. Coût de ces travaux, 1,2 milliard d'euros, financés par la ville et par l'État.
J'ai proposé à l'État la création d'une société publique dédiée avec un partenariat public-public. Bien évidemment, l'État va venir avec nous pour apporter ses compétences, ses moyens financiers et son expertise.
La municipalité prévoit 8 à 9 ans de travaux avec des élèves qui forcément seront déplacés le temps des chantiers dans d'autres bâtiments ou seront accueillis dans des préfabriqués. À Marseille, Cyril Ardo, France Inter.
Deux chiffres en économie, la croissance plus élevée que prévue cette année, ce sera plus 6,25% au lieu de 6% selon Bruno Le Maire qui présentait le projet de budget de l'État cet après-midi devant les députés. Mais grosse ombre au tableau, le prix du gasoil ne cesse d'augmenter, record battu la semaine dernière, 1,53 euros à la pompe pour le diesel, plus encore qu'en 2018 au début de la crise des gilets jaunes. Les courgettes en barquettes plastiques, ce sera bientôt du passé. Le décret interdisant les emballages plastiques pour les fruits et les légumes paraîtra demain au journal officiel, mis en œuvre le 1er janvier prochain, mais il y aura des exceptions pour les produits fragiles comme les pêches, les salades ou les fruits rouges, délai repoussé par exemple jusqu'en 2026 pour les fruits rouges. Le temps pour les professionnels du secteur de trouver des solutions alternatives, un casse-tête parfois. Illustration avec un maraîcher au nord de Metz pour qui le plastique c'était bien pratique. Le reportage de Cécile Soulet de France Bleu Lorraine.
Sur certains fruits et légumes, le chef d'exploitation des jardins vitrés est prêt pour le 1er janvier. François Malassé a déjà fait des efforts pour emballer ses concombres, salades et tomates.
On a de l'emballage carton et après, vous voyez ça par exemple, ça revient du supermarché.
Des caisses consignées, alors ça... C'est de la caisse qui part chez le distributeur et qui ensuite va retourner au lavage.
Mais pour les fruits rouges, c'est différent. Ils nécessitent de petits emballages.
Les petits fruits, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, aujourd'hui, si nous n'utilisons plus de barquettes plastiques, il va falloir trouver un emballage nouveau, peut-être du carton paraffiné, par exemple, ou du bois. En remplacement.
Actuellement, 70% de ces fraises sont emballées sous plastique, une part qui a augmenté pendant la crise sanitaire à la demande des grandes surfaces. Et le plastique reconnaît-il à ses avantages ?
C'est-à-dire que le bois, en l'occurrence, il a tendance à boire l'eau de nos produits. Hein. Les produits fruits et légumes, c'est 95% d'eau.
Le maraîcher a jusqu'en 2026 pour se passer du plastique pour ses fraises ou framboises et il compte sur les industriels pour concevoir l'emballage idéal qui alliera conservation de la fraîcheur et écologie.
Cécile Soulet de France Bleu Lorraine a noté cette enquête de l'INSEE sur les revenus des agriculteurs rendue publique aujourd'hui. Ce sont les éleveurs qui ont le niveau de vie le plus faible. Un quart d'entre eux vivant sous le seuil de pauvreté. Les viticulteurs et les céréaliers s'en sortent mieux, près de deux fois mieux que les éleveurs. Ils sont 5 à 6 000 chaque année à découvrir qu'ils sont séropositifs. La preuve que le dépistage du sida doit encore s'améliorer, s'élargir pour attirer de nouveaux profils. Et c'est pour faciliter donc cette démarche parfois difficile que le gouvernement présente aujourd'hui à l'Assemblée une nouvelle mesure, se faire dépister du VIH gratuitement, sans rendez-vous, dans n'importe quel laboratoire d'analyse. Bonsoir Alice Cachaner.
Bonsoir.
C'est en fait la généralisation d'une expérimentation déjà menée à Paris et dans les Alpes-Maritimes et qui visiblement porte ses fruits.
Oui, depuis un an et demi, le volume des tests VIH est en hausse dans ces deux régions, nous dit Elodie Aina, directrice générale de l'association Vers Paris sans Sida.
Le nombre de tests réalisés en laboratoire a augmenté d'environ 7%, sans pour autant déshabiller les autres offres de dépistage qui sont les tests prescrits et les tests en CEGIT qui sont les centres de dépistage gratuits.
L'expérimentation a également permis d'attirer un nouveau public.
Ce sont des hommes hétérosexuels qui sont exposés au VIH, donc qui sont soit multipartenaires, soit qui ont déjà craint une contamination et qui sont également éloignés du soin.
Des patients qui peuvent découvrir leur séropositivité 4 ans après leur contamination, se rendre directement dans un labo, sans passer par la case médecin. Forcément, ça peut faciliter les choses.
Il n'est pas toujours évident de parler de santé sexuelle dans le cadre d'une consultation, bon, surtout si c'est avec un médecin de famille. On peut aussi prendre des risques parfois en dehors du couple. On n'a pas toujours envie de parler de sexualité, y compris avec des professionnels de santé.
La généralisation des tests VIH gratuits outils permettra peut-être aussi de rattraper le retard pris pendant la crise Covid. Comme d'autres maladies, l'an dernier, le sida est passé au second plan avec 14% de dépistage en moins sur l'ensemble du territoire.
Alice Cachaner, merci. Mise en œuvre de ce dépistage gratuit du sida à partir du 1er janvier 2022. Une dose de vaccin anti-Covid supplémentaire est nécessaire pour les immunodéprimés. Recommandation ce soir de l'OMS qui pour autant ne prescrit pas de troisième dose pour toute la population générale.
Allez, direction la Tunisie qui s'est dotée aujourd'hui d'un nouveau gouvernement.
Premier gouvernement depuis près de 3 mois. En effet, cela fait 11 semaines que le pays vit sous l'autorité directe du président Kais Saied qui s'est arrogé, je vous le rappelle, les pleins pouvoirs le 25 juillet dernier. 25 membres dans ce nouveau gouvernement, dont 9 femmes, sans compter la première ministre. La plupart sont des figures peu ou pas connues du grand public. Hier, 6000 personnes manifestaient contre les mesures d'exception dans la capitale Tunis. Alors cela suffira-t-il à apaiser le climat politique ? Reportage de notre correspondante Maureen Mercier.
Monia Ayed, enseignante, la cinquantaine, scrute son écran de téléphone et graine les noms des nouveaux ministres.
Ahmed Avou, ministre de la Justice. Ahmed Jarandi, ministre de... Je ne les connais pas, franchement. Je ne peux pas juger quelqu'un que je ne connais pas. Je vois les actions, qu'est-ce qu'il fait. Et pas, d'ailleurs, même Kais Saied, on lui donne une chance. Et puis, on va juger.
Comme la majorité de la population, Monia soutient le président, mais elle estime qu'il a pris trop de temps pour nommer un gouvernement.
On lui fait confiance, mais il y a des choses qui sont urgentes. Je souhaite qu'aujourd'hui, il y ait baisse de prix. Je souhaite qu'aujourd'hui, je peux acheter des légumes sans crédit.
Le gouvernement, vous lui donnez combien de temps pour sortir le pays d'affaires?
On lui donne 6 mois.
Elle veut espérer. Sa fille, Eya, elle, 18 ans, c'est l'inverse. Pour elle, ce gouvernement n'est pas une bonne nouvelle parce qu'elle craint Kais Saied.
Je suis vraiment angoissée. En fait, tous ces jeunes, on est tous angoissés. On a peur du retour de la dictature.
À la tête de ce gouvernement, une femme, une première dans l'histoire tunisienne, mais avec un pouvoir réduit depuis les mesures d'exception prises par Kais Saied. Aux yeux des Tunisiens, c'est le gouvernement du président. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
C'est un projet pharaonique à Paris qui pourrait ne jamais sortir de terre. La tour triangle, un bâtiment de 180 mètres de haut qui devait voir le jour dans le sud de Paris. Les travaux étaient prévus pour démarrer avant 2020, porte de Versailles, mais une nouvelle menace plane sur le projet. Bonsoir Laurélie Carive.
Bonsoir.
Une enquête pour favoritisme ouverte cet été par le parquet national financier.
Oui, dans le viseur de la justice, le contrat passé entre la municipalité et le promoteur immobilier Vipari, à qui a été confiée la concession du parc des expositions, là où est censée s'élever cette tour triangle et ses 42 étages. C'est la Cour régionale des comptes qui, sur ce volet-ci, a porté les premiers coups. Négociation inégale, un bail attribué dans des conditions en partie critiquables, ce sont les termes du rapport paru à l'été 2020. Pour faire simple, au moment de renouveler le contrat, la ville de Paris aurait tout fait pour avantager son partenaire historique au détriment de la concurrence, par exemple en fixant des délais très courts. L'association Anticor a donc porté plainte. Des déboires judiciaires dont se serait bien passé le groupe immobilier et la ville de Paris. Depuis le début, en 2008, la tour triangle fait hurler ses détracteurs qui y voient un projet architectural inutile, disgracieux, énergivore. Plusieurs recours avaient été déposés devant la justice pour faire annuler le permis de construire, en vain. Au sein de l'équipe d'Anne Hidalgo, on veut en tout cas croire que les travaux démarreront d'ici la fin de l'année.
Laurélie Carive, merci.
Il était un peu le médecin de famille des téléspectateurs.
Rendu célèbre par ses nœuds papillons, à l'antenne, le journaliste médical Jean-Daniel Flézaquier est mort à l'âge de 70 ans. Son corps a été retrouvé sur une plage des Sables d'Olonne, vraisemblablement après un malaise. Jean-Daniel Flézaquier, le visage grand public du journalisme médical pendant plus de 30 ans jusqu'à 2018 et son départ de France 2 à l'âge de 67 ans. On l'entend ici dans l'assiette anglaise de Bernard Rapp, c'était en 1988.
Vous savez que 1/5 de la production mondiale des antibiotiques passe dans la nourriture quotidienne des animaux.
Un cinquième.
20% de ce qu'on produit dans le monde en antibiotiques ne sert pas à traiter les gens, mais à nourrir les animaux. Parce que
voilà, la voix bien connue des téléspectateurs de Jean-Daniel Flézaquier, journaliste médical décédé à l'âge de 70 ans.
Merci beaucoup Sébastien Legénie. À tout de suite, bien sûr, dans Un jour dans le monde. Vous nous emmènerez sur Mars notamment, dans Sous les radars, mais à 4 heures d'avion.
Tout à fait.
C'est beaucoup plus pratique. Ce soir, on se penche sur Facebook. Facebook, mauvaise presse, mauvaise pub, témoignage à charge. Facebook que l'on adore détester désormais. On verra s'il le mérite. Et nous allons aussi en Inde ce soir où comment l'anniversaire de Modi a fait bondir la vaccination. À 19h20, c'est le téléphone sonne avec les étudiants ce soir qui sont tous rentrés maintenant et qui pour certains ont découvert leurs enseignants qu'ils n'avaient jamais vus que sur écran. Maintenant, le présentiel est à 100%. Mais pas vraiment en réalité. Parfois, il y a des cas un peu particuliers qui font souffrir certains étudiants. On y viendra. Si vous le souhaitez, nous parlerons précarité aussi, qui a été très visible à la fin des confinements et n'a évidemment pas disparu miraculeusement. Vos questions, vos témoignages, dès maintenant au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel avec Élodie Calac.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Et Elodie, vous nous promettez un temps calme pour demain?
Oui, avec quand même pas mal de nuages sur les régions de l'Est. Entre les frontières du Nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, la grisaille sera fréquente le matin. Pas mal de brouillard aussi de l'intérieur de la Bretagne et de la Normandie vers le Berry et le bassin parisien. Mais ailleurs, vous aurez du soleil. Il fera un peu frais, 3 à 8 degrés, 0 vers le Massif central et 7 à 14 près des côtes.
Et sinon, le découpage est le même l'après-midi?
Oui, on aura toujours beaucoup de nuages sur les Hauts-de-France et le Grand Est, avec même quelques pluies près des frontières du Nord. Entre la Haute-Normandie, l'Auvergne, la Franche-Comté et Rhône-Alpes, des nuages mais des éclaircies appréciables reviendront tout de même. Et puis en allant vers l'océan, la Méditerranée, vous serez plus gâtés, ce sera du soleil. Il fera 14 à 17 degrés sous les nuages à l'est, c'est frais, et 16 à 20 en allant vers l'océan et jusqu'à 23 en Méditerranée.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure, après 19h.